side of you. Et venez les potes, venez chez moi, y'a pas papa. Et venez les potes, y'a pas papa, y'a pas papa. Il est parti, ça va être la mouse bing bang party. Et venez les filles, bijou chouchou, liti gata, pou zizi, mimi papa, y'a pas papa. On va se marrer, ça va être la mouse bing bang soirée. Piquez dans le frigo, y'a tout ce qu'il faut. Buvez tous les machins, laissez-moi le porto. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Pour remplir le piano, je vais y prendre un bain, ça me fera du bien. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et l'idiote, toi dans de la voilà papa. Et dit Auguste, ne fais plus joujou avec le lustre. Les potes, hola, hola, voilà papa. Et Mariotte, toi dans de la voilà papa. Et Cristobal, laisse dans ce service de cristal. Tiens, papa n'est pas seul, qui donc qui l'amène? Cubu, licou, pou, i-o, i-a. C'est tonton Archibald, mémé, Philomène. Bijou, caillou, chou, genou, hibou. Je vais en prendre pour mon grade. Fini, rigolade, la la, quelle salade. Et des potes, visez papa, visez-moi ça. Comme il faut que je trotte avec Diana, hola, hola. Tiens, v'la mémé, grimpez sur le dessus de la cheminée. Hola, hola, voyez-moi ça. Comme elle gigote. Hola, hola, on croirait pas qu'elle est Vétus. Tiens, la v'là qui s'élance dans le lustre. Ça, c'est du vrai trapèze. Ça, c'est du boulot. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Elle a l'air bien à l'aise. J'y tire mon chapeau. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Oh, tonton Archibald, tu jongles pas mal avec le cristal. Les potes, oui les papas, oui les Diana, oui les Charlotte, oui les Didi, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas.
Et dis Bobby, si ton papa que tu cherches, ben je vais te le rendre.
Et bonsoir, c'est dimanche, 22h, la causerie Radio Canus 102.2. Ah là, ça fait bien là.
Oui. Hein?
Tout le monde est prêt?
À peu près.
Tout le monde, il est bien à son poste. Tout. Alors ce soir, autour de la table, et pas que de la table, on va déjà dire bonjour à Louli qui nous filme là.
Ouais, c'est horrible.
C'est, voilà. C'est pour Facebook.
À Jean-Yves qui est à la technique.
Voilà, c'est ça.
Emma qui est là.
Salut.
On a aussi deux invités, donc Clara, tu peux dire bonjour fort ou pas au micro? Non, toujours pas. Bon, alors bonjour Clara, enfin bonsoir, et Marco. C'est ça, je me suis pas trompé?
C'est ça.
Putain, j'ai retenu le prénom.
Ouais.
Non,
c'est Jocelyne.
Hein?
Non, je croyais que c'était Jocelyne.
Et donc, 36e de la causerie ce soir, alors c'est toujours pareil, lacauseriecanu@gmail.com pour nous écrire. Et puis on a un endroit où vous pouvez réécouter les émissions, et ça c'est Emma qui va vous dire où c'est, parce qu'elle sait vachement bien dire l'adresse. Ah bah attends, je cherche non, pas. Non.
Alors c'est blogs.radiocanu.org/ comme la tour de Pise, penchée, la causerie.
Ah bah c'était bien. Et sinon si vous trouvez pas, vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez la causerie Canu et vous tomberez dessus. Mais ça fait pas mal. Voilà. Voilà, blague
oh
nulle.
Non,
bon. Non, 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 non.
Blague nulle, pour commencer.
Bon, ben voilà.
Avec cette blague, je tenais.
C'est vrai. Et attends, on devait pas aussi dire un truc très banal en cette période, c'était souhaiter une bonne année quand même
aux
gens.
Ah oui, c'est
pas ouais.
Bonne année à tous.
Alors, on va pas se la raconter. Hein. Enfin, plein de choses en espérant que... Pff, là, je me perds.
Ouais, c'était bien démarré, c'était moins bien arrivé.
Oui, c'est vrai. Non, mais enfin, voilà, on va pas non plus se raconter que tout est merveilleux et tout est beau, mais voilà, on espère qu'à votre niveau et que autour de vous, les choses se passent au mieux pour cette année.
Toi,
et qu'on se retrouve dans les luttes aussi. Hein.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que 2014 ne sera mieux que 2013 que si on y met les moyens.
C'est sûr.
C'est beau, hein.
C'est vraiment très beau.
Il t'a fait
peut-être une minute de silence, voilà, on a une belle parole comme ça.
Ou de Céline Dion.
Bon, allez, on se reprend.
Et j'ai le droit de faire mon sujet.
Mais oui, tu as le droit.
Parce que personne ne me lance.
Oh, bah allez, attention.
J'attendais patiemment, mais bon.
Non, Fabio, tu voulais nous parler.
Bah en fait, je vous parlais un peu largement du climat qui est en ce moment lié à tout ce qui est élection. Et puis surtout d'un petit truc qui nous est passé, qui nous est arrivé, où on était à la gare de Lapardieu. Jeudi, si ma mémoire est bonne, et on a un peu beaucoup halluciné. Donc, déjà, je vais vous parler un peu du climat. Alors, le climat en ce moment,
il fait froid.
Oui, il fait froid. Mais c'est plutôt le climat policier dont je voulais parler, en fait, au niveau du pays, où on voit bien qu'on a un ministre de l'Intérieur qui en ce moment joue un peu les hyperactifs, hein, voire même les très, très, très actifs, et qu'on voit sur tous les terrains. Et notamment sur deux en particulier, qui est la chasse du méchant étranger qui vient voler le travail des gentils français, et la chasse aux humoristes. Bon, alors, l'humoriste, je vais pas revenir dessus, mais je me dis que c'était peut-être un peu temps qu'on lui mette dans la gueule, mais c'est peut-être un petit peu politique de le faire maintenant.
C'est un peu ça,
ça évite de parler d'autre chose, même si c'est un parfait crétin à mes yeux. Mais je vais surtout parler du deuxième aspect, qui est plutôt la chasse un petit peu lancée à tout ce qui n'est pas un bon français sur notre sol national que l'on doit aimer très, très patriotiquement. C'est beau, je disais comme ça.
Ah, c'est là, on se croirait presque.
Bah, j'ai repris ses vœux, en fait. Hein.
Ah ouais.
Donc voilà. Je ne me suis pas fait chier, j'ai écouté ce qu'il a dit pour les vœux, donc il faut aimer sa patrie. J'espère qu'il ne rajoutera pas travail et famille après. Ça va être un peu limite, mais voilà. Donc, en fait, c'est assez hallucinant de voir à quel point il est sur tous les fronts, ce Manuel Valls, et à quel point on en parle systématiquement. Et moi, j'ai un peu l'impression qu'il sert en ce moment une politique qui est pas mal, qui sert pas mal une politique, on pourrait plus précisément. Il fait un peu de l'enfumage pour pas qu'on voit tout ce qui se passe autour de nous. Moi, je vous rappelle qu'on a un président de la République qui a fait des vœux et qui, dans ses vœux, a gentiment dit au monde du travail qu'il allait, il allait bosser encore plus, et puis surtout qu'on allait gentiment tuer la sécu pour sauver les patrons. Bah, ça s'est passé comme si... il aurait pu dire « Bon, tiens, je déclenche la Troisième Guerre mondiale », je pense qu'il n'y aurait pas eu plus de réactions, c'est assez, assez flippant.
Parce que ça aurait été une guerre mondiale de gauche. Et je veux dire, les bombes n'ont plus le même goût.
Mais du coup, c'est intéressant de voir que juste après la déclaration, juste après les vœux de François Hollande, on a Manuel Valls qui arrive à la télévision pour nous donner le nombre de voitures pas brûlées. Ah oui, parce que c'était pour se féliciter du fait que la police faisait bien son travail. Donc ça, c'était pareil, un chiffre pour cacher un petit peu l'annonce qui avait été faite. Je rappelle que François Hollande a donc annoncé qu'il allait baisser ce qu'il appelle les charges sur les entreprises, que personnellement j'appelle cotisation, donc je pense qu'il y a un petit souci de mots, pour aider les gentils patrons à faire 1 million d'emplois, si c'était possible, dans peu de temps. Alors il a aussi dit que c'était, après dans une interview, qu'il pensait à la méthode allemande. Bah, je vous invite à aller voir un petit peu comment ça fonctionne en Allemagne. On va pas se marrer. Mais là, je vais surtout parler de Manuel Valls, donc je continue. Donc il est arrivé avec son chiffre des voitures pas brûlées, et puis derrière il est arrivé avec trois faits divers qui sont malheureux, hein, mais qui est donc trois personnes qui sont décédées. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il a mis tous les trois dans le même panier, dans le même lot, alors qu'il y avait une personne qui est morte en se faisant péter un feu d'artifice à la gueule, et deux personnes qui ont été poignardées. Donc déjà, on voit qu'il y a un petit mensonge de mettre sur le même plan un accident avec deux homicides. Ou plutôt deux accidents, enfin, voilà, bref. Mais il y a cette espèce d'amalgame qui a été fait et qui était assez flippant parce que c'était le lendemain du premier, moi c'est le 2, ça c'est bien, jusque là le lendemain du premier c'est souvent le 2, où on a vu en fait ça tourner en boucle sur les radios et sur les télés du monde entier. Et il s'avère que c'est le 2 que nous on est allé à la gare. Vous avez vu un petit peu transition,
c'est machin, c'est incroyable. Je savais pas où tu voulais nous emmener. Voilà la gare.
On y
voilà.
est en tout cas.
Et donc on parlait à ce moment-là donc du problème de ces gens qui avaient été donc de ces assassinats comme ça a été dit à la télévision, et aussi du fait que il paraîtrait, à ce qui paraît, que oulala, dis donc, en France on est envahi de Rome, parce que ça c'est revenu à partir juste après le Nouvel An, de façon encore plus je dirais, décomplexé, comme on dit maintenant, qu'avant le Nouvel An. Parce que Manuel Valls a quand même fait une déclaration magnifique qui est un peu passée à l'as. Ça m'a fait bizarre d'ailleurs de voir que personne n'avait rebondi dessus en disant « Il va falloir cette année que nous prenions à bras le corps le problème des étrangers ». Eh ben, moi, d'habitude, alors, cette phrase-là, je l'entends un petit peu, pas tellement dans la bouche d'un mec de gauche, mais plutôt dans la bouche d'un mec d'extrême droite,
oui,
généralement blonde et qui veut aussi faire beaucoup. Mais,
oui, mais c'est parce qu'elle en fait beaucoup qu'il faut en faire beaucoup,
voilà,
en fait.
Et ben, c'est ça.
C'est la technique de gauche, en fait. On court après le Front National.
On voit ça. Et ce qui est impressionnant, c'est que donc, juste à cette déclaration, c'était le 2. Et je reviens sur ma gare, le 2.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé à la gare de la Part-Dieu ? Eh bien, la gare de la Part-Dieu, c'est la première fois de ma vie, alors moi qui prends beaucoup le train, que je ne me suis pas senti en sécurité. Alors, je vais vous dire pourquoi. C'est pas parce qu'il y avait des Roms de partout, c'est pas parce qu'il y avait des pauvres de partout, c'est pas parce qu'il y avait plein de voyageurs. Non, c'est parce qu'il y avait des flics tous les deux mètres. Mais alors, quand je dis tous les deux mètres, c'était la BAC, des gentils en civil, les ferroviaires, c'est-à-dire la police ferroviaire, très visible, des CRS, des agents de sécurité privés. Et vous ajoutez à ça une petite couche de gendarmes mobiles et vous avez ce qu'il y avait à la gare de la Part-Dieu. On était le 2 janvier, il n'y avait a priori pas d'alerte à la bombe.
C'était une petite fête privée, t'as pas compris.
Ah, c'était peut-être ça. Et ce qui était très impressionnant, c'était de les voir agir. Parce que justement, un train avait du retard, donc on a pu rester un petit peu dans le quai, dans le hall pour les observer. Et la méthodologie qui était employée, elle était à trois niveaux. La première, ça a été un agent de sécurité privé qui allait dire aux Roms d'aller dire aux gendarmes qu'ils n'avaient rien volé. Voilà.
Bien.
Et ça, c'est vu, hein, on l'a entendu,
non, mais ça, c'est, oui,
c'est véridique. Donc, bah, qu'est-ce qui se passait ? Il se présentait devant le gendarme en disant « j'ai rien volé ». En général, il ne ressortait pas du KGB qui sert de truc de police là, à Lyon-Part-Dieu. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça a été des fouilles systématiques de la BAC. Et alors, quand je dis fouilles systématiques, c'est marrant, je vais avoir le même regard qu'eux. C'est-à-dire que moi, j'aurais pris au hasard une personne comme ça sur 10. Bah oui, ils ont tendance à prendre plutôt une personne soit asiatique, soit arabe, soit noire, hein, parce que sinon, il faut dire que les Blancs ne volent pas, c'est bien connu, selon la BAC. Et de leur demander, donc, d'étaler leurs affaires, ce qu'ils ont fait avec deux personnes devant nous, d'étaler leurs affaires sur le sol, et de fouiller tous les sacs, tous les voilà, et puis bah de leur dire quand il y a rien, bah si, salut, bah rangez maintenant. Mais c'est quelque chose d'impressionnant, mm-hmm, et c'est vraiment comme ça. Hein. Alors, ils vous voyaient, hein. Parce qu'il paraît qu'il faut qu'ils nous vous voient depuis le 1er janvier.
Non,
donc
mais je veux dire, c'est de la police de gauche quand même.
Une grande avancée. Non mais voilà. Et ça, c'était très impressionnant à voir parce qu'on a vu donc des touristes, va chercher des touristes qui arrivaient et qui sortaient du train, qui ont été pris par deux agents de la BAC, qui les ont mis sur le côté, ils leur ont demandé papiers, billets de train, enfin vraiment la totale, et ils leur ont demandé de vider leurs affaires. Bienvenue en France.
Donc,
et je pense qu'ils ont eu une super belle image de notre pays. Non mais c'était impressionnant. Et honnêtement, enfin, c'était la méthode qui était vraiment impressionnante. C'est qu'ils étaient vraiment à tous les angles de la gare, à toutes les entrées, toutes les sorties. Et on voyait qu'il y avait vraiment une volonté de ratisser. Et c'est-à-dire vraiment, il fallait faire du chiffre, il fallait trouver des gens. Alors ils ont arrêté une jeune Rome qui était par là, a priori. Enfin, a priori Rome, parce que je dis ça voilà, en fonction de ce qu'ils disaient eux. Hein. On a essayé, un des membres de l'équipe de la causerie a essayé d'un petit peu intervenir. Et s'est fait gentiment renvoyer dans ses 22.
À qui on a quand même dit, à cette personne, venant d'un policier, hein, si vous n'aimez pas la France, il faut la quitter.
Voilà, c'est beau.
Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, ben voilà, la propagande se fait à ciel ouvert. Les BACE sont pour le Front National. Bon, on savait tous quand même, hein, mais. Ah non, faut peut-être pas tout dire. Hein, je sais pas, c'est peut-être des secrets qu'on perd.
Peut-être.
Comme ça.
Non, mais ce qui était impressionnant, c'est de voir surtout que la plupart des gens vivent ça comme si c'était normal.
Oui.
Et c'est ça, moi, qui m'a le plus dérangé. C'est-à-dire que d'un seul coup, dans une gare, vous avez le droit de demander à quelqu'un de vider ses affaires sur le sol. Vous pouvez arrêter quelqu'un sans que personne ne bouge. Personne ne se pose de questions de pourquoi on arrête cette personne, pourquoi comme ça. C'est fait de façon très ostensible, c'est-à-dire le but c'est que ce soit vu, et que voilà, la police fait son travail, vous voyez un petit peu l'idée qui est derrière. Et surtout, c'est les moyens qui ont été mis en place pour quelque chose qui finalement, enfin, c'est démesuré, c'est-à-dire, enfin, j'ai pas compté le nombre de policiers présents, mais ça devait largement dépasser la centaine juste pour aller faire du chiffre, quoi, pour choper des gens et choper des sans-papiers, choper des Roms, choper voilà. Et là, ça devient impressionnant parce que c'est vraiment le retour de la politique du chiffre telle que la gauche à l'époque de gouvernement l'a dénoncé à l'époque de Sarkozy. Et là, on l'a vu, mais vraiment, mis en place. Et je peux vous dire que c'était très calculé. Oui, Louli.
Une petite question. Est-ce que ça ressemblait pas un petit peu à une rafle aussi, par hasard ?
C'est un mot que j'emploie rarement, mais ouais. Ça ressemblait pas à ça quand même. Non, honnêtement, c'était vraiment violent. Moi, ce qui m'a vraiment choqué...
L'esthétique a l'air similaire quand même.
Bah, voilà, ce qui m'a vraiment choqué, c'est la méthode qui était mise en place. Le fait qu'il y avait quand même un agent privé qui allait dire aux Roms « Allez vous dénoncer », ce qui est quand même un truc... allez dire que vous n'avez pas volé.
Voilà.
Non, mais je veux dire ça à des gens, mais c'est quand même stupide. Enfin, je veux dire, et c'est vraiment poussé au vice, quoi. C'est l'idée de dire, allez, va dire aux policiers que toi t'as rien volé parce que les autres ils ont volé.
Oui,
et
c'est, ça,
ouais. C'est fou, quoi. Et alors en plus, moi je m'imagine à la place des gens qui font la manche ou qui machin, bah vous êtes un peu coincé parce que vous sentez bien la pression policière. Parce que moi, qui n'avais entre guillemets rien à me reprocher, je l'ai bien senti la pression policière. Donc je me dis, quand si on n'est pas bien à l'aise parce qu'on n'a pas ses papiers, parce que ceci, parce que cela, je peux vous dire qu'il y avait un climat où ça vous mettait bien l'impression. Et ce qui m'a en plus, moi, vraiment choqué, c'est cette espèce de, d'entraide qu'il y a maintenant, très clairement, parce qu'on l'a vu de nos yeux, entre la police de la SNCF, qui est la police des ferroviaires, et tous les autres corps de police. C'est-à-dire que d'un seul coup, on fait une sorte d'unité, comme
c'est
ça.
C'est une grande famille de répression.
Et tout
quoi,
se vaut.
Fait.
Et alors, le gag, c'est que le train qu'on attendait était en retard pour une raison... très simple, c'est qu'il y a eu une intervention de police pour 4 personnes qui n'avaient pas payé leur billet. Voilà. On a donc retardé un TGV de 45 minutes pour 4 personnes qui n'avaient pas leur billet pour bien montrer que la police ferroviaire faisait son travail.
On rigole pas en France, bah faut pas déconner.
Et ben, moi ça me choque vraiment qu'on en arrive à ces méthodes-là et surtout on sent bien que c'est une volonté quand même de mettre une pression sur un certain type de population et en particulier sur les plus pauvres et que très honnêtement voir un gouvernement qui se dit de gauche employer des méthodes pareilles, bah ça me rappelle pas des bonnes heures de l'histoire. Et je vais faire un parallèle que Louli a fait avec la rafle. Moi, je vais rappeler qu'il y avait un certain Laval qui, à une époque, avait dit « vaut mieux Hitler que les bolcheviks ». Et ben, c'était un mec de gauche à l'origine. Je me demande si on retombe pas un petit peu dans ces travers-là. Et très franchement, quand je vois les forces de police et la façon dont ils agissent, je me dis qu'on a du souci à se faire. Parce que les citoyens, pour eux, ne sont même plus des gens qui ont le droit de regarder ce qu'ils font. On doit tourner la tête, on ne doit pas les regarder, et on n'a surtout pas le droit de critiquer ce que fait la police nationale. Je rappellerai juste que dans la Constitution française, il est écrit que les citoyens ont un droit de police vis-à-vis de la police. Alors, ce n'est pas écrit comme ça, et c'est quand même dingue de voir qu'on n'a même plus le droit de porter une petite critique. Voilà, c'était le petit coup de gueule.
et après, enfin... ce genre d'action-là, je pense qu'on peut aussi le mettre en lien avec les municipales qui approchent à grande vitesse. Et donc, ben, le PS veut pas perdre ses villes, etc. Donc, ils veulent se montrer plus à droite que la droite et que l'extrême droite. Donc, bon, ben, après, il n'y a pas de solution. Enfin, moi, j'ai la mienne. Après, c'est à vous de vous interroger aussi sur tout ça. Non, mais à un moment donné, effectivement, moi, enfin, en tant qu'électeur socialiste, je me demande.
Alors,
justement, en fait, c'est pas ça.
Tu vas aller me cacher ça.
Oui, je fantasme sur Manuel Valls. Ses couleurs, elles me ravirent. Enfin, bref. Non, ce que je veux dire, c'est. Je me demande comment les gens qui se disent au PS, etc., comment à un moment donné ils peuvent faire complètement abstraction du climat ambiant. Alors après, moi, je suis pas là pour dire attention, ouh, c'est pas bien. Enfin, faites ce que vous voulez. Par contre, je crois que ça vous empêche pas de vous poser des questions et à chacun nous, à notre échelle, de s'en poser. Est-ce que on est en droit d'attendre de tels agissements d'un parti qui se dit de gauche ?
On a un bel exemple, je finis là-dessus, avec Gérard Filoche, qui a réagi au vœu du président de la République. Alors Gérard Filoche, c'est le fameux ancien
inspecteur
du travail, hein, qui a des très bonnes positions sur plein de trucs, et qui d'un seul coup dit « Oh, je suis surpris, il a fait des vœux d'un président qui était plus social-libéral que social-démocrate. » C'est le même qui a passé l'ANI, donc je suis étonné qu'un inspecteur du travail découvre que le président qui l'a soutenu ne fait pas trop une politique vraiment de gauche. Quoi. Voilà.
Mmh. Et vous avez le droit d'avoir voté socialiste et demain de plus avoir envie d'aller voter, hein. C'est pas grave. Vaut mieux ça que d'y retourner. Bon allez, on se met un petit son.
Musique.
Musique.
Il y a des pétroliers super sur l'onde, avec 10 hommes d'équipage, on s'en va au bout du monde. Avant il en fallait 30, c'était pas rentable. seront plus supportables. Mais de tous ces matelots, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces matelots, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, à la 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 R. On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires. Assez travailler pour soi, la petite exploitation maintient l'Europe en retard, hors de la compétition. Il y a trop d'agriculteurs, c'est pas raisonnable. Quelques millions au chômage et le revers sera viable. Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, ralalalalère. On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires. Et toi, petit commerçant, tu mourras de la TVA. Mais si on aide ces gens-là, la bombe, comment on la fera? Le petit commerce doit mourir, il n'est pas rentable. Va-t'en au supermarché, les prix seront plus abordables. Mais de tous ces commerçants, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces commerçants, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, ralalalalère. On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires. À Brest, du travail il y en a guère. Ils voudraient rester chez eux, alors comment faire? Déplacer toutes les usines, c'est complètement con. Eux qui viennent dans la capitale, pour le patron c'est plus valable. Mais de tous ces émigrants, qu'est-ce qu'on va en faire? De tous ces émigrants, qu'est-ce qu'on va en faire? S'ils viennent dans la capitale, ralalalalère. Même en faisant plein de fonctionnaires, il y aura toujours trop de prolétaires. S'il y a trop de chômeurs, il y aura du désordre. Il faudra des policiers pour maintenir l'ordre. Hitler le disait déjà, un chômeur c'est pas rentable. Un soldat ça coûte moins cher et c'est bien plus raisonnable. Mais de tous ces policiers, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces policiers, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, ralalalalère. Taper sur les ouvriers, taper sur leurs frères. Ils s'en iront à la ville, ralalalalère. Taper sur les ouvriers, taper sur leurs frères.
Et ben voilà, c'était Gilles Servat. Ah, tu voulais le dire, Emma ?
Non, du tout, je n'ai plus de casque, mais c'est pas bien grave.
Emma n'a plus de casque, pourtant t'en as un sur les oreilles. Ah, c'est le fil qui s'est débranché, ouais. Bon. Oula. Vous savez tout, hein ? Ouais. Tout ce qui se passe à la causerie sur le 102.2 Radio Canu, vous savez tout.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, et ben, Louli, c'est toi qui voulais enchaîner.
C'est pas moi, comme d'habitude. Si, non, ça va, je m'entends. Ce soir, je m'entends. Bonsoir tout le monde. Alors, ben, moi, je voulais vous causer ce soir, en réponse à une question sur... blogs.
Tu n'y arriveras pas. Ouais. Là, tu vas
en réponse à une question sur internet.
Sur le blog.
Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui nous posent des questions. Voilà. Donc, au moins deux que nous saluons. En réponse à la question d'un certain Thierry, suite à la toute première émission que nous avions faite sur l'antispécisme, les animaux, etc., etc., notre cher auditeur Thierry nous posait une question très intéressante, à savoir, les animaux, c'est bien de les respecter, mais le progrès, la science, la recherche médicale, est-ce qu'on peut faire sans ça lui semblait logique qu'on doive faire avec, en fait.
Avec
les animaux, les tests sur les animaux, la vivisection.
Oui, c'est normal que vous m'entendiez pas, j'avais coupé mon micro.
Donc, en réponse à Thierry et dans cette période post-téléthon, justement où on sollicite les gens sur les pauvres enfants malades qu'on exploite comme ça pour faire pleurer dans les chaumières. Donc on montre l'enfant malade qui guérira jamais parce que personne n'a jamais guéri, grâce au Téléthon en tout cas, et encore moins grâce à la vivisection. En plus de ça, d'ailleurs, le Téléthon, hein, grosse crapule. Je ne sais pas si je peux dire le nom de la directrice de l'AFL qui s'octroie des chèques de 100 000 euros et qui vient de s'acheter une maison il n'y a pas très longtemps. Voilà. Ça, donc, pensez au petit enfant qui a maximum encore 5 ans à vivre attaché à des machines et la directrice, j'ai son nom hein, si vous voulez.
Non, mais vas-y, d'accord, continue.
Voilà, qui s'octroie des chèques, machin et tout. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans ma réponse, c'est le lien toujours qu'il y a entre les animaux et les diverses industries. Et là, en l'occurrence, l'industrie pharmaceutique. Donc, la vivisection, ça existe depuis toujours. Ça existe depuis l'Antiquité. Le premier à avoir inauguré la recherche clinique, c'est notre bon vieux Hippocrate. Mon ami Hippocrate qui ne mangeait pas d'animaux et qui trouvait ça absurde qu'on puisse manger des animaux. Donc lui, il a inauguré la recherche clinique sur des humains.
Ce qui était un animal à portée de main.
Voilà, ce qui me semble logique puisqu'il voulait traiter des problèmes d'humains sur des humains. C'était 4e siècle avant Jésus-Christ quand même. Donc après lui, 2 siècles après, il y a notre ami Claude Galien, célèbre médecin des gladiateurs et de l'empereur de l'époque, lui aussi était élève de cette école-là, donc qui pratiquait la recherche clinique sur les humains, mais on est 2 siècles après Jésus-Christ, donc entre-temps, il y a eu pas mal de magouilles, l'Église dit non, ça suffit, c'est immoral, on ne peut plus faire de recherche sur les humains, on va la faire sur les animaux. Et donc, comme d'habitude, une super avancée sur la recherche médicale, sur la santé et sur l'épanouissement de notre santé, de l'allongement de l'espérance de vie dont on parlait déjà à l'époque, et tout ça s'est coupé, s'est interrompu, comme d'habitude j'ai envie de dire, par l'Église qui met son grain de sel et qui dit non, on teste plus, enfin on fait plus de recherches sur les hommes, on fait des recherches sur les animaux, c'est mieux.
C'était en grande partie des recherches sur les cadavres d'ailleurs humains.
Oui.
Dissection
oui.
Et
ouais. Voilà. Et donc, l'Église trouvait ça sale.
Ah on ne pouvait pas toucher au corps qui, normalement, allait rejoindre Dieu, c'est ça, sûrement.
Oui, non, Dieu ou Céline Dion, c'est pas.
Oui.
On
ne
sait pas. On sait
chacun
pas qui,
chacun a son Dieu qui veut. Quoi.
Le Nirvana et le Valhalla. Enfin, bref. Donc, l'Église, déjà au 2e siècle après Jésus-Christ, interrompt tout ça. Et il y a une espèce de flou artistique en matière de recherche jusqu'à à peu près. Le 14e siècle, donc ça fait une trotte quand même.
Ah ouais.
L'interruption, c'est complètement censuré et ravagé, même comme toute avancée, comme toute forme d'épanouissement, pardon. Donc ça a été interrompu par la religion, par le mauvais usage de la religion, pardon, pour ceux que ça pourrait vexer. Et donc au 14e siècle, on va avoir un premier traité d'anatomie qui fait référence au corps humain et qui va être censuré, donc déjà à l'époque, on est en 1316. De Vinci au 15e siècle, pareil, il va proposer des études, notamment sur le cœur, sur les artères. Et pareil, ça va être un gros bide, un flop, parce que c'est censuré par le média de l'époque qui est l'Église. Et tout ça, c'est toujours la même chose, quoi. C'est une question de mode, de média, de censure, de pas censure. Là, en l'occurrence, c'est l'Église qui était omnisciente. Omnipotente. Tout à fait.
Et dans cette période-là, du coup, tout ce qui était essais cliniques ou autres, enfin essais médicaux, était fait sur les animaux et pas sur les humains.
Les deux tentatives, jusqu'au 14e siècle, c'était que sur les animaux. Enfin, même pas, il y avait des petites tentatives comme ça, mais il y avait vraiment une espèce de censure, une chape de plomb, et ce truc de plus personne osait proposer de recherche, notamment parce que si t'as l'Église contre toi, tu finis un peu au bûcher quand même.
Un peu.
Et donc toutes les théories sur l'utilité de l'expérimentation humaine et l'inutilité de l'expérimentation animale, toutes ces théories-là étaient réfutées par l'Église et même condamnées. Et réprimé. Donc au XVIe siècle, ça reprend un petit peu, et on reprend les recherches et les essais sur les humains. Et en gros, dès cette époque-là, en fait, l'essentiel du patrimoine scientifique, on va dire, dont on a hérité, il se constitue là sur des recherches effectuées sur des humains. Moitié du 19e siècle, un certain Claude Bernard, que j'adore, qui était pas tellement doué pour les sciences, mais plus pour des matières un peu plus artistiques, a trouvé un bon filon. Il trouvait que ça faisait super classe de faire des tests sur les animaux et de dire, vous pouvez pas comprendre parce que moi je suis dans mon laboratoire. En fait, il a pas fait une très grande carrière en tant que scientifique, il a travaillé en laboratoire. Donc il a trouvé une petite combine pour gagner sa vie en créant une espèce de mystère autour de tout ça. Et encore une fois, ça paraît absurde, mais ça paraît même un peu anachronique, mais c'est toujours une histoire de fric, de charme, de marketing, pur et dur, même si on est au 19e siècle. Donc on a quand même donné son nom à l'université Lyon 1. Voilà, je trouve ça...
Et un quai.
Ouais. Oui, aussi, ouais. Et sûrement, un taxiphone. héros, hein, Claude Bernard, donc. C'est un peu comme Jules Ferry et la Commune. Moi, alors, en tant qu'antispéciste, c'est un peu comme quand on dit que Jules Ferry est un héros de la nation, quand il a juste fait massacrer des milliers de communards. Mmh. C'est, voilà, pour... parce qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais moi, je suis l'antispéciste de la causerie.
C'est lui.
Et l'analogie, pour moi, est la même. Voilà.
Juste quand même pour préciser, c'est Claude Bernard, dès le départ, il y a eu des polémiques sur sa méthodologie, sur ses rendus de résultats. Il y a des gens qui disait, mais il arrive, quoi, comment il arrive à obtenir ça, enfin, même en reproduisant des choses qu'il faisait, il y a des gens qui n'arrivaient pas du tout au même résultat que lui, ils disaient, mais c'est farfelu, quoi. Et, ouais. Mais par contre, il jouissait à l'époque d'une aura parce qu'il était de bonne famille, bien implanté à Lyon, et qu'en plus, ça servait bien à Lyon, qui avait envie de devenir la capitale de la science en France, d'où le couloir de la chimie quelques années plus tard.
Tout à fait. Voilà, tout ça, mais encore une fois, c'est du super marketing, je trouve ça. D'un côté, c'est génial parce qu'on a l'impression que c'était il y a des siècles, mais en même temps, c'est toujours les mêmes combines et les mêmes histoires. Et tout ça, c'est géré par, d'un côté, l'Église et de l'autre côté, le fric. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner, au cours des siècles suivants, et notamment milieu du 20e et avec la Seconde Guerre mondiale, l'expansion... De l'industrie, l'explosion même de l'industrie pharmaceutique. Donc là, on sent qu'il y a un gros filon à exploiter, il y a des gens qui tombent malades, on a envie qu'ils restent malades, on va leur faire croire qu'on peut les guérir avec des méthodes de charlatans, puisqu'on retourne à de l'expérimentation animale pure et dure, on ne fait que ça. Et il arrive des choses comme, là je vais un petit peu plus vite parce que je sens que... on arrive chronologiquement aux années 50 par exemple, où on a testé la thalidomide, qui était un truc qui était censé aider les femmes enceintes à se détendre un peu, quoi, une espèce de petit joker. Qui avait été testé sur les animaux, tout va bien, enfin sur des rats, je suppose, comme d'habitude. Tout va bien, tout s'est très bien passé. Après quelques années de commercialisation du produit, il y a juste eu des naissances, donc d'êtres humains, avec pas de membres, des enfants troncs avec.
Ouais. C'est le Distilben, en fait, le nom.
Voilà, exactement.
Un nom commercial.
Et quand ils essayaient sur les rats,
ça faisait rien du tout, le rat pétait la forme. Ouais. Ouais. Les rats enceintes, elles accouchaient tranquillement, aucune déformation. Et alors que sur les humains, Donc ça, c'est un des exemples les plus éclatants qui a fait un vrai scandale et qu'on a un peu tendance à oublier. Mais c'est juste probant, quoi. Ce qui marche sur une espèce... Déjà au sein même de la même espèce, c'est difficile, mais d'une espèce sur l'autre, les choses sont totalement différentes. Nous ne sommes pas tous faits de la même façon, nous ne réagissons pas tous aux pathologies. Et au-delà de tout ça, donc déjà scientifiquement, ça ne sert à rien de tester sur les animaux, en réponse à notre ami Thierry. Mais en plus, de façon éthique, c'est des gros camps de concentration pour animaux. Il y en a dans toute l'Europe, aux États-Unis, pas que en Asie. On a le cliché du chinois qui est méchant avec les chiens, qui les dépiote et qui prend la fourrure du chien, machin et tout. Parce que le chien, c'est l'animal domestique, c'est un peu comme le petit sur son fauteuil roulant du Téléthon. Voilà, c'est des trucs qui sont tendres, mais dans la réalité, donc scientifiquement, c'est infondé. Les résultats ne servent à rien. Et en plus, ben, éthiquement, le problème, il est là, en fait. C'est de tester sur les animaux, c'est juste cruel envers eux. Pour ce qui est de l'industrie pharmaceutique, bon, on leur procure des maladies qu'ils n'auraient jamais eues en nature. Déjà, on les élève, donc on élève des animaux en dehors de tout habitat et de toute forme de liberté. Et à la causerie, on est tous pro-liberté et pro-libération. Donc voilà, il y a des non-humains qui souffrent aussi. Ça représente des millions d'êtres vivants qui meurent chaque année pour rien du tout.
Mais c'est ça.
Pour des résultats nuls. Mais ça génère du fric et ça fait vendre des médicaments. Et ça sert surtout à être publié. Donc comme au XIVe siècle, comme au XVIe siècle, comme Claude Bernard au XIXe siècle, on est publié sur une revue, ça génère du fric, ça génère de l'intérêt, des subventions, des télétons, des façons un peu plus privées d'obtenir des sous, etc. etc. Oui. Non.
Parce qu'en même temps, enfin, après, je ne sais pas si tu voulais en parler, mais parce qu'il y a aussi des scientifiques qui aujourd'hui le disent clairement, ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire, c'est...
En gros, bah, déjà, dès l'Antiquité, en fait.
Ouais,
on sait que ça ne sert à rien.
Et ça continue. Et il y en a toujours qui le disent.
Ni microscope, ni rien. Quoi.
Et ils sont toujours ostracisés en disant, c'est une frange des scientifiques.
Hippocrate, déjà, avec sa bite et son couteau, si je puis dire. Déjà, lui, il savait déjà, 4 siècles avant Jésus-Christ, que ça ne servait à rien. De tester sur les animaux.
Et justement, tu as des assos qui développent des méthodologies hors test vivisection.
Alors, la source d'information la plus complète, c'est d'aller sur peta.org pour tout savoir sur ce qui est droit des animaux, que moi j'appelle droit des non-humains. Donc là, vous avez des listes beaucoup plus complètes que ce qu'on pourrait faire maintenant et donner des listes une par une, machin et tout. Donc peta.org, il y a même fr.peta.org, enfin c'est international, donc, et c'est super complet, et c'est la source la plus fiable à mon sens. Ensuite, il y a beaucoup d'associations anti-vivisection, parmi les plus célèbres, il y a Antidote par exemple. En dehors de ça, il y a des associations de scientifiques qui sont contre la vivisection. Notamment, on avait mis le site la dernière fois, iCare.org. Sinon, je voulais aussi dire un petit truc sur la recherche sur les animaux aussi, en ce qui concerne les cosmétiques.
Oui.
Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est toujours d'aller sur peta.org pour ce qui est de votre choix des cosmétiques, parce que les cosmétiques aussi, c'est testé. Oui. Et faut pas croire qu'on mette du rouge à lèvres au petit lapin ou qu'on fasse un shampoing au chat et au chien, mais on les scalpe, on leur fout des trucs dans les yeux, on leur fait pas du bien.
D'ailleurs, pour les cosmétiques, clairement, ça n'a vraiment aucune utilité.
Enfin,
faut être très clair. Je veux dire, on peut faire des tests dermiques sur de la peau humaine, sur un petit carré de peau pour voir s'il y a une réaction. Il n'y a pas besoin de balancer ça sur un lapin, surtout que la peau de lapin n'a pas vraiment de grand rapport avec la peau humaine.
Et puis, on a assez de technologies pour faire de la recherche sur des cellules humaines dans des éprouvettes. Et voilà. Mais là, encore une fois, même si on est en 2014, il y a l'Église, toute Église confondue d'ailleurs, c'est bien, c'est pas bien, et en attendant, il y a des millions d'animaux qui souffrent. Et les gens sont malades, continueront d'être malades parce qu'il faut du malade et il faut du pauvre. Et si vous voulez vous soigner, dirigez-vous plus vers l'homéopathie et la naturopathie, ça fait des miracles.
Ça y est, voilà. Il l'a lâché.
Bon, là je dis rien, mais on parlera de l'homéopathie.
Et une saine alimentation.
Oui, ça va. Là, je te suis complet. Ouais. L'homéopathie, bon.
Et aussi, un peu de Céline Dion.
Petite dose, effectivement, parce que sinon après ça gratte.
Un peu, ouais, ça fait l'urticaire. Et puis c'est tout. Ah, et je tenais aussi, en réponse à toujours à une autre auditrice qui s'appelle Charlotte. Je la remercie parce qu'elle nous avait répondu il y a un peu plus d'un mois, et toujours en rapport avec la vivisection, les animaux, tout ça. Et je la salue parce qu'elle a fait un truc super bien, elle est partie s'informer et elle est partie voir les sources d'informations qu'on a fournies, et elle s'intéresse maintenant à l'antispécisme, donc je te salue Charlotte, et je t'aime. Plus que Céline Dion et peut-être autant que la vodka.
C'est une belle communauté, pleine d'amour.
Et juste dans un souci de transparence, je sais Je suis précis et pointilleux. Je mettrai un peu de bibliographie, hein, parce que je, ouais. comme d'habitude, je suis très passionné par ce que je dis, mais ça sort pas de sous ma chaussure, ça sort de livres que je lis.
Ah d'accord, moi ouais. je croyais que les talons c'était pour ça.
C'est pour après. Voilà. Donc, bah, je crois que j'ai fait un truc dans les temps d'ailleurs.
Ouais, ouais c'est ouais. top dans les temps, on va pouvoir mettre de la musique, c'est ouais.
parti. Au revoir.
Au revoir.
Chubidois. Alors, on vient juste d'écouter le groupe Nausea, qui a interprété la chanson Électrode, donc qui parle de vivisection, justement, d'électrodes, d'animaux qui souffrent. Et voilà, c'est pas très drôle, mais c'est très rythmé. Vous êtes toujours sur Radio Canu, 102.2, c'est la causerie. Et je passe la main à Julien Lepers. Non. Qui êtes-vous? Jocelyne.
C'est ça, oui. Jocelyne.
Mais t'avais pas une citation?
Deux aussi, de Missy Elliott, c'était Yo Yo Yo, Who's That Bitch, mais voilà, j'ai été, j'ai été coupé dans mon élan.
Julien Lepers, Missy Elliott, après tout.
T'as le choix.
J'ai le choix. Ouais. J'en prends aucun, mais c'est pas grave. Ouais, alors moi ce soir, je voulais vous causer de ce qu'on va appeler le devoir de fécondité chez les femmes, ou l'espèce de pression sociale, sociétale, familiale, tout ce que vous voulez, que subissent pas mal de femmes, voilà. On a tous passé des excellentes fêtes avec nos familles respectives, et alors qu'elles soient, si vos familles sont plutôt ouvertes, c'est assez sympa pour vous. Sinon, si vous avez la chance, ou plutôt la malchance, d'avoir des familles un peu fermées, un peu rétrogrades, Vous n'avez pas échappé à la question à partir d'un certain âge, mais quand c'est que tu nous fais des bébés ? Quand c'est posé comme ça, à la rigueur, hein, on peut facilement rétorquer, mais sinon, quand c'est un peu quotidien, c'est un peu plus difficile. Et du coup, moi, je voulais passer un petit coup de gueule, puis aussi un peu pousser les demoiselles, mais aussi les damoiseaux à réfléchir sur la question. Parce que c'est encore une fois une énorme inégalité homme-femme, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au cours de discussion, on dit souvent qu'une femme, elle ne sera jamais comblée parfaitement si elle n'accomplit pas le devoir de la vie, que d'être mère. Mais on ne va jamais dire ça d'un homme, on ne dira jamais à un homme, si tu n'es pas père, tu ne seras jamais 100% accompli dans ta vie, quoi. Et je ne sais pas, moi, c'est un truc qui me choque énormément. Enfin, pourquoi le fait d'être mère, même pas d'être parent, puisqu'après tout, on dirait que ça s'adresse qu'aux femmes, ça serait un accomplissement, quoi. Enfin, pourquoi on ne peut pas envisager déjà la question au niveau masculin ? Et puis, pourquoi on doit passer par ce stade-là forcément, surtout aujourd'hui ? Et puis, il y a une autre question aussi qui est souvent rapprochée, c'est un peu la question de l'inné. Alors, l'autre fois, je regardais une émission, plus ou moins correcte.
Ne dis pas ce que tu regardes.
Je dirais pas.
Passais dans la cuisine, c'est mon excuse. Je passais dans la cuisine.
Ouais, je passais chez un ami, il y avait la télé qui était allumée, j'ai regardé. Mais où un homme, venait pour se faire un tatouage, ceux qui reconnaîtront l'émission,
Et, s'il vous plaît, ne dites rien.
Faites comme si vous n'avez pas entendu. Et voulait se faire tatouer alors le portrait de sa femme et tout ça en super-héroïne. Tout ça parce qu'elle avait mis au monde 4-5 enfants, qu'elle était mère au foyer. Alors jusque-là, bon, pourquoi pas. Mais alors, il se permettait de dire... le premier truc, c'est elle était faite pour devenir mère.
Ah, c'est beau, ça.
C'est beau.
Ça fait rêver.
Mais qu'est-ce qui détermine au final qu'une femme soit faite pour devenir mère ? Qu'est-ce qui détermine qu'une autre ne le soit pas forcément ? C'est quoi cette question d'inné ? Enfin, moi, le truc des gènes un peu maternels, c'est un truc qui me fait gerber, tout simplement, quoi. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ça n'existe pas, les gènes paternels ?
Oui.
Ouais, non, je sais pas, c'est...
Ouais, non, mais attends,
c'est tu rigoles ou quoi ?
Non, mais c'est clair, enfin, c'est... En plus, c'est une phrase que t'entends souvent, quoi.
Ouais.
Mais même de la part de femmes, hein, qui disent « Ah, elle était faite pour être mère ».
Mais c'est ça, mais... Enfin, mesdemoiselles et mesdames, rendez-vous compte qu'aujourd'hui, enfin, les inégalités, elles sont pas juste creusées par les hommes, c'est vous, dans vos discours quotidiens, qui les creusez, quoi. En balançant des trucs comme ça, des banalités, mais c'est vous qui creusez cette inégalité. Puis alors, l'homme avait aussi l'intelligence de rajouter un autre truc, c'était « À moi, ma femme, son plus beau moment dans la journée, c'est quand elle prépare le petit déjeuner des enfants.
» Et la gamelle du chien.
Mais voilà. C'est ça, puis mon petit repas à moi aussi, hein, ça devait inclure ça. Enfin, qu'elle soit mère au foyer, à la rigueur, ça peut être son choix. Et puis, enfin, je veux dire, pourquoi pas, je ne suis pas en train de remettre ça en question, mais comment lui, il peut prendre la parole pour juger de son moment de bonheur à elle ? C'est pas parce qu'elle affiche un grand sourire en préparant le petit déjeuner de ses enfants. Soit dit en passant, il pourrait l'aider, hein, c'est, ah ouais, c'est pas ça, interdit.
Peut-être que lui, il a pas le gène de la cuisine et du
ménage. C'est pour ça. Bah, c'est un homme, ouais, on peut pas
c'est
demander.
Un PD, s'il fait le ménage de la cuisine, c'est un PD, je suis désolée. Il faut dire ce qu'il y a quand même.
C'est ça.
On va pas se mentir. Hein.
Non, mais c'est...
Ouais, ouais. Enfin, c'est surtout ça. Et puis, du coup, moi, je suis allée un peu fouiller sur des témoignages de femmes. Alors, parce que sur Internet, surtout sur des super sites du style Doctissimo ou d'autres choses comme ça, ou auféminin.com.
Ça fout la trouille. Hein.
Juste, n'y allez plus, s'il vous plaît. Faites leur perdre de l'audience, je sais pas, mais il faut qu'ils ferment à la fin. Où on trouve, dès qu'on tape un peu le sujet de la fécondité et puis le fait de pas avoir d'enfants, on trouve des... les pires stéréotypes qui puissent être, et puis des phrases un peu bateau. Donc je suis allée du coup me renseigner un peu sur les sites un peu du côté outre-Atlantique, aux côtés du Canada et des États-Unis. Alors bien sûr, on trouve des trucs un peu moralisateurs, mais du coup je suis tombée sur le témoignage d'une Américaine qui s'appelle Christine Kane, qui a un site, si vous voulez aller voir, on remettra le lien, mais c'est christinekane.com. Alors, il faut juste lire ça, parce que sinon, elle fait un peu du merchandising, c'est pas très intéressant. Mais elle soulevait plusieurs points qui me semblaient intéressants, c'est parce qu'alors, elle a une quarantaine d'années, donc depuis très tôt, elle savait qu'elle avait pas forcément envie d'être mère. Elle a un conjoint et tout ça, mais voilà, c'est juste que c'était pas son souhait, qu'elle souhaitait... elle a mis beaucoup, elle s'est beaucoup investie dans sa vie professionnelle et on va dire personnelle, amicale, sociale. Et donc du coup, elle soulevait plusieurs points du fait d'être pas une mère, quoi. Et elle disait qu'elle elle sentait que son rôle social était un peu indéfini et qu'elle avait besoin, en fait, d'accomplir plus pour la société. Parce que beaucoup de personnes disaient, bah, de toute façon, si t'as donné la vie, c'est bon, ton rôle est accompli, tu peux mourir tranquille. C'est ça, t'as fait ton devoir. Et elle disait, bah, j'ai l'impression de devoir me justifier, de devoir en faire plus. Donc elle s'est mise à faire beaucoup de bénévolat, à faire plus pour la société, pour un peu pallier le fait de ne pas avoir
donné d'enfant à la nation.
C'est ça, ouais.
Jean-Jacques Rousseau, un peu ça.
C'est pas faux. Mais d'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'avais lu c'était sur Super Féministe, je crois, le blog qui avait mis ça. C'est peut-être pas là-bas, excusez-moi si c'est pas sur le bon blog. Mais il y avait le témoignage d'une femme qui disait que, bon, elle voulait pas d'enfant. Et qu'en fait, la phrase qu'on lui disait le plus souvent, c'est oh, ma pauvre, tu peux pas en avoir. Et elle disait, si, c'est juste que j'en veux pas. Mmh. Et en fait, là, du coup, elle disait, je passais pour une méchante. C'est-à-dire, d'un seul coup, ah, mais disons, tu peux avoir des enfants, t'en fais pas. Et ben, oui, mais enfin, je veux dire, elle répondait en plus sur l'article, je me rappelle, elle avait dit, oui, je peux aussi tuer mon voisin, mais je le fais pas. Mais elle dit, c'est aussi une question de choix dans la vie. Enfin, c'était très provocateur de sa part et c'était volontaire. Mais c'est marrant quand même de voir que tout de suite, le premier truc qui vient, c'est ah, tu peux pas en avoir. C'est pas un choix de pas en avoir. Forcément que tu ne peux pas en avoir, tu sais, voilà.
Et après, bon, je sais pas si c'est mon anticléricalisme primaire, mais j'ai toujours cette impression que ça colle quand même beaucoup avec tous ces dogmes religieux, quels qu'ils soient, où il y a quand même la femme ne peut qu'être femme, en fait, en étant maman, en fait. Enfin, est-ce que c'est ma lecture personnelle et mon anticléricalisme?
Il faut toujours qu'elle soit complétée par quelque chose d'extérieur. Elle peut pas s'épanouir toute seule.
Et puis, donner la vie et donner des enfants au monde et à toutes ces aberrations cosmiques, en fait, c'est un peu leur mission, quoi. Parce qu'il faut qu'elle se fasse pardonner. Et au final, moi, je reste désolé, c'est plus formulé avec les mêmes mots, etc. Mais l'idée, elle pue c'est la même merde, j'ai l'impression.
Ouais, c'est un peu ça. Puis elle disait aussi qu'alors le jugement, il était premier. Qu'aussi, un truc qui revenait assez souvent, c'était qu'elle ne pouvait pas donner son avis sur l'éducation des autres enfants quand elle se retrouvait avec ses amis. Parce que du coup, on lui disait, qu'est-ce que tu connais, tu n'en as pas eu. Et du coup, elle disait qu'effectivement, elle avait énormément de mal à créer des liens sociaux, notamment dans son environnement de travail et dans d'autres environnements comme l'environnement associatif, parce que du coup, elle n'avait pas forcément de sujet de discussion autour de bébés, quoi. Comme on peut les entendre entre midi et deux et tout ça, des sujets super sympathiques que j'adore. Et donc, du coup, on l'excusait un peu. Et puis, c'est surtout que, elle devait tout le temps se justifier pour... Parce que beaucoup de gens disaient, mais t'es dans un couple stable, effectivement, 40 ans, maintenant, ta vie professionnelle est stabilisée, pourquoi vous ne pouvez pas... Et c'est ça, c'était aussi la première question qui venait, c'était, est-ce que t'es stérile, est-ce que tu peux pas en avoir? Ce à quoi elle répondait, de toute façon, si j'étais stérile, j'aurais pensé à d'autres moyens tels que l'adoption, Et c'est ça, c'était vraiment la justification tout le temps, et assez pesante, quoi.
D'ailleurs, c'est toujours elle qui est stérile, jamais lui. Hein.
Oui, c'est toujours ça, n'est-ce pas?
Dans la phrase, c'est toujours, mais est-ce que tu peux pas en avoir?
Est-ce que l'homme est toujours robuste, etc. Non, mais enfin, pour moi, c'est pour ça, ça découle toujours de cette truc-là. Après, sur le côté, de toute façon, vous n'avez pas d'enfant. Bon, je vous rassure, hein, vous pouvez être PD et on vous le dira aussi. Hein. Non, mais je veux dire. Et après, aussi, pour ne pas généraliser dans l'autre sens, moi, je connais des gens qui sont parents et qui sont totalement aussi ouverts aux discussions, même en sachant que vous n'avez pas d'enfant, parce que moi, je reste persuadé qu'un regard extérieur peut toujours être... peut toujours nourrir une réflexion. Et puis voilà, ils sont pas tous cons non plus. Et s'ils le sont, dites-vous que vous avez rien à perdre en vous en séparant. Parce que je veux dire, parce que moi, il y a aussi un problème, c'est qu'à un moment donné, quand t'as des gens qui ne se réalisent que par le fait d'être parents, des fois, c'est chiant. Sérieux. Enfin, on parle du caca du petit, de ce qu'il mange, de ce qu'il mange pas. Enfin, je veux dire, on peut en parler. C'est assez incroyable. Et quand vous êtes en regard extérieur et que vous dites ça après aux gens, ils vous disent oh mais non, si quand même, vos dialogues sont un peu chiants. Pardon, voilà.
C'est dit. Puis il y a surtout aussi un autre truc que je voulais rajouter, c'est au niveau de la ligature des trompes, surtout en France, parce que la législation n'est pas la même en France, je crois même en Belgique, ils sont un peu plus souples là-dessus. Moi, j'ai déjà abordé la question avec ma gynéco qui m'a dit que on pouvait pas, en tant que femme, se faire ligaturer les trompes sans avoir déjà eu un enfant, voire deux, ou avoir trois, voire plusieurs, quoi. Que c'était vraiment une procédure longue et tout ça. Alors que la vasectomie, je le rappelle, généralement, on demande pas autant aux hommes, en tout cas, et on leur dit, un petit tour, une petite hospitalisation, même pas de 24 heures, et puis c'est fait, alors que les femmes ont fait beaucoup de la prévention, puis c'est de la prévention limite forcée, quoi. On leur dit, mais c'est quand même une procédure, faut que vous en parliez avec votre compagnon. Est-ce que, je suis allée faire des recherches sur choisir-sa-contraception.com, le site officiel, qui nous disait que la vasectomie, c'était autorisé à toute personne majeure. Pourtant, quand on se rend soit chez son médecin de traitant, soit chez sa gynéco, et même dans d'autres forums de discussion, on va dire, on est vraiment là-dessus, c'est vraiment déconseillé aux femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. Donc,
ça sent un peu les objecteurs de conscience.
Oui, c'est un peu ça, oui.
Et ça va plus loin que ça, il y a des témoignages de femmes en France qui disent que comme elles étaient mariées, quand elles ont demandé à avoir une ligature des trompes, on leur a répondu « je ne peux pas le faire si je n'ai pas l'accord de votre mari ».
Le consentement de votre mari, alors que c'est complètement normalement illégal, que c'est que le formulaire pour une ligature des trompes ne doit être rempli que par la patiente. Pareil pour la vasectomie, on va pas... Et je pense que quand un homme veut se faire vasectomiser, on lui demandera jamais « mais attendez, est-ce l'accord qu'on peut avoir le consentement de votre femme ?»
Il y a encore du chemin et du boulot.
Ouais. Il y en a pas mal, et en tout cas si le sujet vous intéresse, il y a un site qui est vachement bien fait avec pas mal de ressources. Alors je suis désolée, c'est un site anglais, la France comprend le message s'il y a des volontaires, et donc c'est Choosing Children, donc choosingchildren.com. Okay. Voilà,
on vous mettra tout ça sur
les blogs.
Et puis au mieux carrément, c'est si les auditeurs, auditrices, vous avez des liens sur ce sujet-là, etc., faites-les passer par le mail, etc.
Ouais,
et
puis même vos témoignages, votre quotidien et tout ça. Peut-être aussi qu'il y a des avis inverses, qu'il y a des femmes pour qui ça s'est très bien passé, leur entourage l'a accepté, puis ça nous ferait plaisir de lire ça, quoi, un peu des témoignages un peu contraires.
Ouais. Voilà. Bon, on se passe la musique.
Oui.
Allez, à tout de suite.
Coming home.
Et oui, vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2 et c'est toujours aussi la causerie. On vient de s'écouter Stereotypical Working Class Coming Home et c'était une version acoustique.
Alors il paraît que c'est un groupe lyonnais,
ouais.
Alors, que je ne connaissais pas, je l'avoue. Hein,
pardon, en même temps, on ne va pas connaître tous les groupes ouais. lyonnais non plus. Hein.
Et donc, ils sont du coin de Lyon, enfin vraiment, ouais, je suis con, un groupe lyonnais du coin, oui, de Lyon. Bah, je vais me coucher, moi. Et ben, vous savez, la causerie, c'est ouvert, hein, on fait des lives de temps en temps, ouais. Il y en aura un le 19 d'ailleurs.
Ouais. Et... on reçoit les Magic System, il me semble. Prenez Gaou, c'est pas
ouais, c'est ça.
Vous m'aviez promis. Quoi.
Donc on recevra SMB le 19.
Ah voilà.
Et, mais s'ils ont envie de venir bah, un petit peu le gratter ici, bah ouais, c'est avec plaisir. Voilà.
Voilà, voilà.
Oui.
Bon, bah, vu qu'on a déjà dépassé l'heure, on va faire super rapidos deux, trois petites brèves. En fait, c'est deux rendez-vous cette semaine. Alors, le premier rendez-vous, c'est mardi 7 janvier de 11h à 12h30. C'est un rassemblement, en fait, des vaches en colère. C'est devant la préfecture de Lyon, qui est rue de Noir, dans le 3e. Et en fait, c'est un rassemblement contre l'usine, contre la ferme-usine des 1000 vaches, qui va s'implanter ou qui devrait s'implanter si la lutte n'est pas assez forte. Donc, une raison plus d'y être dans la Somme, en fait.
C'est en fait une espèce de méga usine où on met des vaches côte à côte et on les fait bouffer. Elles ne sortent pas.
C'est ça.
Et le pire, c'est que bah, je vous invite à lire un article qui est dans ouais. Charlie, je crois, Charlie Hebdo,
ouais.
de Nicolino, qui est très bien écrit, qui explique très bien tous les problèmes qui sont liés à cette ferme, notamment la maltraitance animale, mais au-delà de ça, tous les impacts environnementaux. Voilà.
Ouais.
Et puis sur les sites de ceux qui font l'appel, il y a des très bons.
Ouais, ouais, bah c'est à l'appel, à l'initiative de L214, qui est une asso aussi. Qui est un peu connu si vous vous intéressez aux conditions des animaux, etc. Et il y a un autre rendez-vous, lui, ce sera samedi prochain, le 11 janvier, à 14h30, devant la mairie de Villeurbanne, en fait. C'est à l'appel d'un collectif féministe. C'est une manif en solidarité avec les femmes espagnoles. Parce que vous savez certainement, si vous lisez un petit peu ou si vous écoutez un peu les infos, c'est qu'en Espagne, on a drastiquement réduit le droit à l'avortement, qui est maintenant très encadré, mais alors très, 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 très encadré, c'est-à-dire que c'est vraiment incroyable. Donc, les réacs continuent d'avancer. C'est aujourd'hui en Espagne, demain, ce sera ailleurs. Enfin, voilà, et c'est toujours en première cible les femmes. Donc c'est pas parce qu'on a des couilles qu'on peut pas aussi penser un petit peu aux femmes, hein, ce serait bien. Donc ben rendez-vous devant la mairie à Villeurbanne, c'est au métro Flachet, station Machet.
C'est gratte-ciel le
gratte-ciel, ouais.
C'est gratte-ciel et c'est l'avenue Henri Barbus.
C'est
pas
ça.
L'arrêter.
C'est exactement ça. Et alors il disait sur le site, enfin c'est sur Rebellion, hein, vous pouvez trouver plein d'infos là-dessus. Bah il faut venir avec ses banderoles, ses trucs, parce qu'il y a rien de, enfin c'est voilà, c'est de l'autonome. Donc on fait soi-même, on vient avec ses petites banderoles et on vient en groupe, on peut même emmener à bouffer et puis voilà. Ben je crois que c'était à peu près tout.
Avant de finir, moi j'avais juste un petit truc à dire sur des brèves. Hier en Tunisie, c'est avant-hier, la constitution continue à avancer et donc a priori dans les médias français on a dit « Ah c'est bien finalement, Ennahda, ils ont accepté que la charia ne soit pas la base du droit tunisien ». Parce que c'est effectivement ce qu'ils ont écrit dans un article. Sauf que je vous invite à lire le blog de Willis from Tunis, qui a fait une très belle, donc qui en plus d'être caricaturiste écrit des textes, et qui explique en fait en quoi c'est une belle arnaque, parce qu'en fait il y a un article qui dit ça, et deux articles plus loin vous avez marqué que seul l'islam est reconnu comme religion d'État, blablabla. Donc en gros ça revient à faire une entourloupe.
Oui, ça annule
voilà.
un peu le premier article.
Exactement,
du coup,
et donc il dit qu'il faut que les médias occidentaux soient un petit peu aventurés à dire que tout était merveilleux finalement et que tout se passait très bien. Et il y a aussi un député qui a fait un scandale aujourd'hui parce que après avoir été montré du doigt dans l'Assemblée par un chèque, parce que voilà c'est comme ça, il y a des chèques qui siègent à l'Assemblée, il a reçu des menaces de mort chez lui parce que la personne avait dit il n'est pas de mon islam, et donc ça a permis voilà. Donc il ne faut pas oublier les copains qui sont de l'autre côté de la Méditerranée qui galèrent, et voilà, et lisez un petit peu ce qu'ils produisent, c'est très intéressant de voir que bah, nos médias ont tendance à un petit peu à dire tout va bien en Tunisie. Je vous rappelle que la Tunisie est la première destination touristique pour les Français. Donc,
avec les intérêts financiers qui en
voilà,
découlent.
Ça doit être un peu lié le fait qu'on ne veut pas nous dire vraiment ce qui se passe là-bas.
Ouais. Et puis ouais, il y a Willis
from Tunis.
From Tunis, ouais. Franchement, c'est un caricaturiste qui est vraiment, vraiment très bon. C'est un Tunisien et voilà.
Il dessine des chats.
Il
comme
Gulli,
mais pas pareil.
Pas pareil. Et donc voilà. Ben, on se souhaite quoi ? Une bonne semaine ?
Ouais,
une bonne reprise pour ceux qui reprennent ?
Ah ouais, merde.
Bah, il y a tout le monde, il y a les travailleurs, les scolaires, tout le monde. Bah, bon courage à vous. Parce que bon, moi, je reprends pas, malheureusement.
Merci.
Malheureusement. Bon. En tout cas, bon courage. On se dit à la semaine prochaine avec peut-être des invités, je crois.
Peut-être. On n'a pas leur réponse. Alors, amis de foutoir, si vous nous écoutez ce soir, par le plus grand des hasards, on attend de votre réponse pour ça si vous venez la semaine prochaine.
Posez votre bière déjà, voilà. Écoutez-nous. On attend vos nouvelles.
Ou si vous venez plus tard. Voilà.
Ben, on souhaite une bonne semaine et puis ben, on se quitte avec un classique de Renaud qui est Hexagone. Allez, bonne semaine, bon courage.
Salut, bisous.
Salam alaikum.
S'embrasse au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passe les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne. Des matraqueurs assermentés qui finirent l'air leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie. Ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Sur son trône, ne dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre, on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin ferment en tonneaux. Ils sont très fiers de leurs vignobles, leur Côte du Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à s'étarer. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers derniers modèles de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindons marrons. Être né sous le signe de l'hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, y aurait 50 millions de prétendants.